c'est les camps qu'on fonde la salle. Les camps qu'on fonde la salle.
Non.
Ça vient du XVIIe siècle. Donc je vous incite vivement à venir écouter.
inscrivez à l'UTB, vous gagnez 10 ans de vie dans les bonnes conditions. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Donc, je dois avoir atteint mon quota de 5 minutes. Donc, j'arrête mes discours et je vais laisser la parole à Claudie. Elle va le faire la deuxième fois, mais je la fais une première fois. Je dois citer notre ami Bernard Collin, qui est ici, le barbu, là, qui est au premier rang, qui a aidé Claudie Roger à venir dans le monde du numérique. Donc, c'était une date historique à l'UTB. Claudie Roger va montrer des photos de tableaux numériques avec un vidéoprojecteur. Bravo. Et donc, grâce à cette avancée considérable, je pense qu'on va arriver à mettre au rencard notre abominable projecteur de diapo qui nous donne un...
Ne le jetez pas, hein,
sans doute.
Ah bon. Très utile. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Très, très, très heureuse de vous retrouver aussi nombreux. Ça, c'est un cadeau merveilleux. Je ne suis pas allée en vacances, ben, finalement, j'ai un autre cadeau. Merci à tous et à toutes. Alors, je renouvelle effectivement un immense merci, immense mais pas trop fort, à Bernard Collin, ici présent, parce que non seulement, effectivement, il m'a fait franchir ce pas plus qu'historique, parce que... Donc, dans le monde du numérique... Ah oui, mais carrément, oui, je crois. Mais surtout, il a su, par ses qualités, bah déjà par rapport au numérique, bien sûr, mais ses qualités artistiques, me proposer quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que la raison est simple, je défendais, et je défends toujours, quand je ne peux pas faire autrement, quand je suis seule pour travailler, les diapositives et les appareils, puisque j'en ai hérité d'un et je le garde précieusement. Tout simplement parce que je pouvais, au dernier moment, si tout d'un coup j'avais vu une expo puis qu'un tableau me rappelait, ouais, hop, je rajoutais ma diapo, c'était hyper facile. C'est sûr que ce que j'ai devant moi, je sais absolument pas m'en servir. Je vais essayer d'appuyer correctement sur la flèche, mais c'est pas garanti. Je savais déjà pas me servir des autres flèches, de toute façon, alors vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que Monsieur Collin m'a montré que finalement, on pouvait tout aussi bien préparer, même sans la souplesse des diapositives, quelque chose de construit. Et puis surtout, ce qui était formidable, c'est que ce matin, eh bien, au lieu, je n'avais simplement qu'à relire mes notes et je n'avais pas le souci de me dire est-ce que les diapos vont être bien tournées, est-ce qu'elles vont pas tomber à mon arrivée, est-ce que vous savez, des choses qui malheureusement arrivent malgré nous. Ah non, ne soyez pas... Non, pas de choses comme ça, non, pas chez nous, pas à l'UTB Chalon, c'est pas possible. Mais en tout cas, donc, un immense merci à Monsieur Collin, parce qu'en plus, la qualité de son travail est prodigieuse. Donc, et puis, j'avoue, ça a été vraiment très agréable de travailler ensemble, parce que, à partir du moment où Monsieur Collin est passionné à la fois d'informatique et puis d'histoire de l'art, donc, automatiquement, le mélange, j'espère, vous donnera...
Attention, c'est lui qui va faire les conférences.
Ah, ben, c'est ce que je lui ai dit. Ah ben je lui ai dit de toute façon, je lui ai dit maintenant, si un jour je suis absente, eh ben vous mettez aux commandes et puis c'est bon, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis ben, aussi merci à notre président, parce que c'est lui qui nous a mis en relation, hein, toute seule je n'aurais pas deviné. J'oublie toujours votre nom.
Françoise.
Merci à Françoise, voilà, qui sait me soutenir, m'encourager dans des choses un petit peu nouvelles. Vous parlez de l'impressionnisme dans les années à venir, ça j'en suis ravie parce que j'y ai longtemps travaillé. Par contre, l'école de Barbizon, eh bien, je la découvre avec vous, quoi. J'y ai bien sûr travaillé parce que le président m'a armée, hein, pour que je puisse travailler sérieusement. Mais j'ai d'ailleurs vous cité tout de suite parce que c'est l'ouvrage de référence. À l'école de Barbizon, je lisais encore ce matin dans différents parce que j'ai tout un pavé de livres. En fait, moi personnellement, j'ai pas un livre sur l'école de Barbizon. J'ai mes ouvrages dans lesquels je puise les choses. Et puis, je savais qu'il y avait une exposition qui avait eu lieu à Lyon sur l'école de Barbizon. Et dans la plupart des ouvrages, lorsque l'on regarde école de Barbizon, eh bien, on découvre que c'est encore quelque chose aujourd'hui tombé dans les oubliettes. Parce que même s'il y a eu cette exposition qui a eu lieu à Lyon et non pas à Paris, déjà là, bien que bon, bah, le musée de Lyon est couru, mais néanmoins, on voit tout de suite cette exposition ne s'est pas promenée à Paris. Ça reste quelque chose qui, bah, qui on a fait des expositions sur Millet. Là, j'en ai la preuve de ce catalogue, la Millet Van Gogh, la superbe expo que j'avais parcouru à plusieurs reprises à Orsay. Bon, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'ai un catalogue que j'ai montré à Monsieur Collin, qui est quasiment tout en noir et blanc, hein, sur Millet, parce qu'à l'époque, les catalogues n'étaient pas encore... Il y avait quelques pages en couleur au centre. Mais faire une exposition vraiment pour défendre l'école de Barbizon, pour montrer que c'est une école qui, finalement, a été moderne, peut-être pas autant que les Nabis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas la mettre un petit peu sur le même plan, puisque l'an dernier, vous avez suivi les Nabis. Donc... pour vous la présenter, puisqu'aujourd'hui c'est le cours d'introduction, je vais dire, la conférence d'introduction, nous avons, comme c'était indiqué dans le petit papier qui accompagnait les conférences du mois d'octobre, nous fonctionnons en deux parties, c'est-à-dire que nous allons déjà vous présenter aujourd'hui, dans cette première partie, eh bien, Barbizon, où je vous recommande de vous rendre. J'espère bien que j'aurai la chance de m'y rendre moi-même, parce que ça me semble assez fabuleux, quoi. J'ai quand même été en contact direct avec le musée, hein, le musée de Barbizon, qui est l'ancienne auberge Gannes. Donc, ce sont des gens qui m'ont l'air fort sympathiques, donc ils seront ravis de vous accueillir individuellement ou en groupe. Et puis après, j'ai fait une sélection des peintres. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour ne pas prolonger trop les choses... Je montrerai que deux, voire qu'une seule diapo par artiste sélectionné. Et puis, bien sûr, d'autres artistes viendront s'immiscer tout de même en cours de... Parce que nous n'avons pas tout bouclé. Hein. Il y a encore... Nous avons fait beaucoup de travail sur le plan photographique. Mais moi, j'aime bien après avancer quand même en fonction de mes choix et puis pouvoir augmenter toujours par mes lectures, par mes découvertes, les conférences. Voilà. Alors, on va tout de suite... Alors, je vais essayer de me lancer. Alors, il faut que j'enlève mes lunettes. Si j'ai bien compris, il faut que je fasse
voilà,
ça.
Voilà. Bravo.
Mais vous m'avez envoyé la science infuse, là. Merci, Président. Alors, tout d'abord, pour commencer, eh bien, une carte. Par contre, est-ce que vous avez la petite chose pratique?
Non.
Non. Bon. Alors, vous allez tous regarder, vous allez trouver, si vous suivez mon doigt, en dessous du MI Barbizon, vous voyez? Alors, situons également Milly-la-Forêt, qui est tout à fait à l'extrême gauche en bas, vous voyez. Et puis, voudrais vous trouver aussi Fontainebleau, parce que, bon, ben, hein, voilà, là, tout à fait là. C'est ce qui est le plus près de moi, c'est ce qu'on voit toujours le moins, ce qui est le plus près, hein, voilà. Donc, Barbizon, ben, situé en forêt de Fontainebleau, tout simplement, hein, je vais pas... Mais c'est pour que vous voyez un petit peu les choses, comment... Donc, tout à l'heure, nous allons avoir un tableau qui s'appelle « Apremont ». Donc, vous voyez, gorge et platière d'Apremont, hein, donc vous comprenez pourquoi ces noms vont apparaître. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour situer les choses de façon géographique. Ben, voilà. Ça marche. Alors, là, vous avez... ça, c'est un travail qu'a fait donc Monsieur Collin, que j'ai trouvé passionnant, c'est-à-dire d'anciennes vues de Barbizon qui correspondent à peu près à ce que nos artistes ont pu voir donc à l'époque de l'école de Barbizon. Approximativement, ça ne devait pas avoir trop changé. Donc, je vous laisse les découvrir. Hein, les légendes sont écrites, donc il n'y a pas de problème. Je vous laisse regarder. Un œil tout particulier que je vous demande de bien lancer, c'est sur les arbres. Parce qu'évidemment, les arbres, nous allons les retrouver, notamment quand nous travaillerons sur coraux. Je vous montrerai. Alors, vous voyez, cette façon de... Ce sont la végétation telle que la représente par la suite coraux, on voit d'où elle vient. Hein, quand on voit l'image qui est placée...
Est-ce que vous voyez
Oui, mais je la vois. Oui, mais alors ça, moi, j'ai toutes les fois que j'ai essayé, j'ai jamais pu me servir de cette chose.
Vous la déplacez simplement sans cliquer.
Oui, je veux bien. Merci. Je vais essayer de ne pas être troublée par la petite chose, là. Voilà, alors donc sur cette image-là, j'arrive presque mieux à dire à gauche ou à droite, mais enfin, donc sur cette image-là, où vous avez la flèche, vous voyez, elle a bougé. Et j'ai rien touché. Fais le souffle. Simplement le souffle. Ah oui, j'aime mieux laisser tomber parce que ça va me compliquer les choses. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Ah, j'ai réussi. Alors, les arbres en question, là, vous allez les retrouver ensuite dans les tableaux de Corot. Et c'est tout à fait révélateur de la façon dont Corot, bon, elle s'en va après. Donc, Corot réalise ces arbres. Regardez également les grands arbres dans la vue qui est juste au-dessus. Parce que ça aussi, vous allez les retrouver dans d'autres tableaux. Alors, je passe à l'image suivante. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que je la voie. Voilà. Parce que de près, je vois rien avec mes lunettes. Alors, c'est ça le problème. De loin, ça va très bien. Donc là, vous avez différentes maisons que vous pouvez trouver aujourd'hui encore à Barbizon. Hein. Donc, vous avez les vues aujourd'hui à Barbizon. Donc, ça donne tout à fait envie de se rendre dans ce lieu, dans ce havre de paix. Hein. C'est ainsi que l'ont vécu donc les artistes qui se sont déplacés à Barbizon. Je vous donnerai davantage d'explications après. Hein, là, de toute façon, nous reviendrons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous montre simplement ce genre de vue, puisque moi, après, je vais les intégrer en fonction de mes différentes interventions. Donc, je vous donnerai là, c'est simplement pour que vous vous imprégniez. Je ne donne pas trop d'explications volontairement aujourd'hui. Alors, voilà, ici, vous avez donc l'auberge Gannes, qui est le musée de l'école de Barbizon. Alors, c'est situé Grand Rue. Ça, c'est souvent dans les... nous avons... Il y a toujours, vous voyez, Gannes qui est écrit au-dessus. Donc, on vous dit, dans la légende, c'est très utile, les Gannes s'installent dans cette maison probablement en 1824, elle la transforme progressivement en épicerie, puis en auberge. Attirée par la modicité des prix, plusieurs peintres y séjournent. Donc, oui, nous verrons. C'est vrai que tous les peintres... Ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que le village de Barbizon, la forêt de Fontainebleau, c'est peut-être les aubergistes qui nous appellent. La forêt de Fontainebleau n'est pas le seul lieu où les peintres du début du XIXe siècle ont séjourné. D'autres se sont rendus dans le Jura, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient fuir un petit peu les grandes villes, l'industrialisation naissante et tout ça, se rendaient bien sûr, il y en a qui sont allés dans le Midi déjà, hein. Bon, après on va le voir avec les impressionnistes, etc., mais se sont rendus dans des lieux comme ça, privilégiés, je veux dire, où la nature reprend ses droits. Hein. Donc la forêt de Fontainebleau est un des exemples. Évidemment, comme la proximité de Paris, lieu où résidaient les artistes, fait qu'on a plutôt gardé en mémoire ce lieu-là. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres... je pense, j'ai cité donc le Jura, mais je pense aussi au Dauphiné. Hein, si vous allez, par exemple, même au musée actuel, le nouveau musée de Grenoble, mais si vous allez au musée dauphinois, eh bien, vous voyez qu'à cette époque-là aussi, d'autres artistes se sont rendus dans ces lieux privilégiés. Mais ici, bien sûr, la proximité de Paris faisait que l'on venait plus volontiers à l'école, quoi, à Barbizon, et c'est pour, en forêt de Fontainebleau, et c'est pour ça que l'on a gardé le souvenir. Alors, ici, vous êtes à l'intérieur de l'auberge, donc du musée actuellement, et vous avez des meubles qui sont, entre autres, peints par les artistes. Alors, vous voyez, le couvert est mis comme si les artistes allaient arriver. Hein. Tout est resté un petit peu dans l'ambiance de l'époque. Hein. Et donc, là, vous pouvez avoir un aperçu de les artistes qui se sont... Comme à l'époque, on faisait beaucoup de paravents, donc il était aisé pour eux de peindre sur... vous vous souvenez, les peintres nabis, je vous avais souvent montré des tableaux oblongs. Donc, peindre ainsi sur des portes d'armoires dans ce sens-là, hein, ce n'est pas quelque chose pour eux de difficile. Alors ici, donc, cloison à la palette. Vous avez l'intervention de Théodore Rousseau, Diaz de la Peña, et d'un artiste dont je ne vous parlerai pas parce qu'il est peut-être moins connu, c'est Nanteuil. Donc, vous pouvez voir là sur ce panneau. Voilà. Et tout ça, à l'occasion, nous reverrons, mais c'est bien déjà d'avoir cet aperçu. Alors ici... buffet aux portes peintes en trompe-l'œil, hein, c'est vrai que ça, c'est d'un très, très joli effet, hein. Ça peut vous donner des idées? Si vous avez des meubles qui sont encore en bon état dans certaines parties, mais qui, je trouve que c'est assez sympathique. Et puis justement, la soupière qui existe réellement, qui est représentée donc en trompe-l'œil dans le, sur les portes du buffet et que vous avez ici. La soupière de l'auberge. Voilà. Alors ici, il va y avoir, je ne sais pas comment je dois le prononcer, parce que moi j'ai toujours, avec mes professeurs d'histoire de l'art, et puis depuis toujours, j'ai toujours dit Jean-François Millet. Mais lorsque l'on écoute les audioguides de Barbizon, ils insistent beaucoup sur le fait que ce n'est pas Millet, mais Millet pour eux. Alors, moi, c'est vrai que j'ai du mal à dire Millet, parce que j'ai toujours dit Millet, donc nous sommes à Châlons, ils nous entendent peut-être pas jusque là-bas, jusqu'à Barbizon, on va continuer de dire Millet, mais sachez que... c'est-à-dire qu'en fait, le I2L a fait IE chez nous, mais bon, on peut aussi prononcer le L. Alors, donc, il s'installe à Barbizon dans cette maison, qui appartient à un ami à lui, qui est en fait un mécène, en 1849. Donc, il n'est pas dans les premiers à venir, hein, bien sûr. Et l'atelier du peintre occupe donc le rez-de-chaussée. Hein. Donc, vous le voyez tel qu'il était à l'époque de Jean-François Millet, quoi, plus proche de son époque à lui, et puis tel qu'il est aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a très, très peu de changements. Hein. Les choses sont restées quand même. C'est intéressant, là, d'avoir les deux possibilités. Hein. Là, par contre, où je remercie le numérique, c'est que quand je vous disais, parfois, il me faudrait 3 écrans pour pouvoir vous montrer 3 diapos, là, ici, on arrive à avoir tout sur le même, et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors là, encore l'atelier de Millet, hein, avec le puits à l'extérieur, donc des vues d'époque. Hein. Alors ça, je vous les remontrerai quand nous travaillerons sur cet artiste. Ici, maintenant, l'atelier de Théodore Rousseau. Alors, Théodore Rousseau, c'est vraiment celui que l'on peut considérer comme le père fondateur de l'école de Barbizon. Hein. C'est vraiment lui qui est très, très important, même si malheureusement, il a quand même laissé pour nous moins de souvenirs. Mais je compte sur ses interventions pour que nous remettions l'école de Barbizon. Et vous savez que nous avons toujours, depuis toujours, hein, depuis que j'interviens à l'UTB, j'ai remarqué qu'à chaque fois que nous faisions comme ça, nos présidents ont toujours eu beaucoup de feeling. Et après, peu de temps après, il y a une grande expo qui se met en place. Et regardez, en ce moment, c'est fabuleux, parce que je vous conseille vivement, je fais juste un petit aparté pendant que j'y pense, que j'ai peur d'oublier. Il faut absolument que vous vous rendiez à Orsay. En plus, avec une mise en scène fabuleuse, les impressionnistes et la mode. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous voyez. Hier soir, j'ai écouté une émission radio, mais qui était formidable, sur le Hopper. Voilà. C'est vraiment l'exposition. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Hopper. Hein, donc, allez voir cette exposition au Grand Palais. Allez également voir Bohème au Grand Palais, parce que là, c'est pareil. Ça, c'est une exposition qu'il ne faut pas rater. Et voyez, on revient vraiment à la figuration. On revient vraiment à la fin 19e, début 20e. Moi, je trouve ça très, très intéressant, tout ce qui se passe en ce moment. Donc, faites des séjours à Paris. N'hésitez pas à aller-y sur la journée. N'hésitez pas à aller voir toutes ces merveilles, parce que ça vaut vraiment le détour. Hein. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, là encore, vous avez l'atelier à peu près à l'époque de Rousseau, et puis tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Hein. Là aussi, vous voyez, pas grand changement, peut-être un petit peu plus dégagé au niveau de la végétation, parce que parfois, bon, il faut aussi protéger l'architecture. Alors, ici, la demeure de Narcisse Diaz de la Peña, que vous aviez tout à l'heure dans la présentation générale, hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Alors, de l'extérieur, une fois que l'on rentre, vous voyez, donc c'est vraiment, on vous met demeure, mais c'est vraiment dans le sens demeure, petit castelet, j'ai presque envie de dire. Hein, moi, ça me fait tout à fait penser quand... est-ce que vous êtes déjà allé, pour certains d'entre vous, je sais que oui, au musée de Montmartre. Et quand on rentre à l'intérieur aussi, où on a la maison où ont vécu certains peintres impressionnistes, eh bien, on a un petit peu cette, avec le jardin, on a un petit peu cette impression. Parce que le musée de Montmartre, quand on le voit de l'extérieur, ça ressemble finalement presque une épicerie, mais il faut rentrer à l'intérieur, et dans la cour intérieure, et là, on a un petit peu ce même genre de demeure. Alors ici, la demeure de Charles d'Aubigny. Par contre, là, je crois que nous n'avons simplement qu'une vue actuelle, hein, c'est ça. Donc, ça a été pour moi un petit peu trop rénové, je pense, celle-ci. Elle a perdu un petit peu du cachet de l'époque. Mais bon, c'est quand même important de toujours de savoir que c'est où les artistes ont vécu. Et puis, maintenant, nous allons pénétrer dans la forêt, hein, chère à tous nos artistes, puisqu'ils étaient venus là pour trouver le silence, le calme, la paix. Et vous avez donc ce bas-relief, hein, qui est célèbre, commémoratif de Millet et de Rousseau. Hein. Et puis, vous avez donc l'allée aux vaches dans laquelle est placé ce médaillon. Cette allée aux vaches qui, on vous dit, a été peinte à la fois par Millet, par Rousseau. Et puis, bien sûr, le nom d'un des suiveurs. Hein, vous avez vu que vous découvrez le programme au fur et à mesure, hein, je crois. Oui. Donc, la toute dernière conférence, là, je peux quand même vous le dire, la toute dernière conférence, eh bien, je parlerai des suiveurs, justement, pour annoncer ce qui se passera par la suite pour vous. Hein. Et bien sûr, Monet est présent. Hein. Donc, moi, c'est vrai que ma première réaction quand j'ai découvert ces images, j'ai dit, tiens, ça me fait penser à Huchon. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui, pour moi, m'est familier, bien sûr. Et c'est un petit peu le même genre de site, hein, avec les pierres. Alors, évidemment, dans le catalogue qui est très, très bien fait, il y a tout un historique sur Barbizon que, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous faire, hein. Mais s'il y en a qui sont intéressés, je peux faire un petit résumé et puis après éventuellement donner la feuille au président et puis après vous débrouiller pour avoir quelques photocopies ou je ne sais pas comment vous pouvez procéder. Mais ça, il suffit de me le demander. Moi, je veux bien, parce que j'y ai travaillé, mais je n'ai pas le temps, si vous voulez, matériel de me lancer dans l'explication. Mais c'est très ancien, bien sûr. Alors, il y a des tas de questionnements autour de ces pierres, hein. L'époque du paléolithique, etc. Tout ça, ça remonte très, très loin. C'est passionnant de voir ces rochers comme ça dans cette forêt. Alors, bien sûr, ici, vous avez l'entrée de la forêt. Alors, pour moi, cette vue-là que vous avez au-dessus est très précieuse parce qu'on va retrouver ces grands arbres à différents... Parce que ce qui intéressait aussi les artistes de l'école de Barbizon, eh bien, bien sûr, c'était la lumière. Hein, là aussi, ils sont précurseurs par rapport aux impressionnistes. Et cette lumière, eh bien, elle va changer, bien sûr, aux différentes heures de la journée, mais également aux différentes saisons. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne séjournent pas à Barbizon, mais qui n'y font que de petits voyages, eh bien, ils viendront néanmoins à différentes périodes de l'année pour justement s'imprégner des différentes tonalités de la lumière et puis de la nature aussi avec ces tons qui varient en fonction des saisons. Hein. Et puis de la climatologie, parce que c'est vrai qu'une lumière de pluie comme aujourd'hui, finalement, elle a son charme aussi. Hein. Des fois, on râle, mais j'ai aussi appris en étudiant tous ces artistes à regarder un petit peu les choses différemment et à savoir finalement m'accommoder, j'allais dire m'acclimater, de tout ce que la nature peut nous offrir, parce que c'est intéressant de voir comment les choses, comment la lumière après peut être traduite par les artistes en fonction de ce qu'elle nous est, de ce que nous pouvons voir, observer. Parce que ces peintres d'école de Barbizon, ils ne vont pas y mettre du sentiment, ça aussi c'est très important, mais avant tout c'est de l'observation. C'est de l'observation in situ, donc sur place, en plein air. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, l'entrée du village, aussi, là, que vous voyez, côté de la forêt. Donc, vue d'époque, des vues anciennes, et ça, moi, je trouve que c'est très précieux pour nous aujourd'hui. Et maintenant, vous avez d'autres vues, hein, des rochers qui, finalement, ici, on dirait un éléphant. C'est assez, assez sympathique de voir tout ça. D'ailleurs, cette forêt de Fontainebleau, elle a inspiré des artistes beaucoup plus contemporains, hein, bien sûr. Donc, c'est toujours, c'est intéressant de voir que ça n'a pas été qu'à l'époque du 19e, ça s'est prolongé. Alors là, vous avez, vous voyez, une vue, encore d'autres vues avec les arbres à une autre période de l'année. Je pense que là, c'est plutôt la fin du printemps, début de l'été, quoi. En tout cas, le printemps, parce qu'il y a une lumière au niveau de la qualité du vert des arbres. Moi, ça me fait penser dans cette vue-là, au printemps davantage. Et puis là, bon, bah, c'est plutôt plus tard. Et c'est intéressant. Oui, je pense que là, c'est l'été davantage, avec les ombres qui sont longues, les ombres portées qui sont longues. C'est intéressant de voir donc toutes ces vues que vous allez retrouver après donc dans les tableaux que je vous montrerai. Encore d'autres vues. Hein. Alors avec justement, là, moi j'aimais beaucoup celle-ci. Je tenais à ce qu'elle y soit parce que j'ai lu à plusieurs reprises que ces artistes étaient dans leur peinture, des architectes d'arbres. Mais c'est vraiment ça, hein, parce que la nature, évidemment, il ne va pas y avoir que des arbres, mais les arbres vont quand même être très très présents. Et quand on voit de très très beaux arbres comme ceux que vous avez dans la vue du dessus, c'est intéressant parce qu'ils sont œuvres d'art à part entière, quoi. Chaque arbre est en lui-même une œuvre d'art. Donc c'est intéressant de voir aussi comment la lumière dans les photos en couleur, comment la lumière filtre à travers à la fois le feuillage, à travers les branches. C'est très très intéressant pour nos artistes. Encore d'autres vues. Et je pense que cette période de l'année, ça doit être. Alors le problème, c'est qu'il faudra bien vous renseigner. L'auberge Gannes va être fermée. Il va y avoir des travaux. Je crois qu'elle va être fermée pendant 3 mois. Si je me souviens bien, j'avais été en contact avec une dame au téléphone. Et donc, il faudra bien vérifier. Sans tout est indiqué, vous qui pratiquez l'internet sans aucun problème, ne pas vous y rendre à l'époque où ce sera fermé, quoi, lorsque vous voudrez y aller. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au peintre barbizonien. Donc, avant, comme j'ai pas beaucoup de lumière, j'en ai suffisamment, président, je vous rassure, mais je vais me permettre, avant de passer directement, de vous faire ma petite introduction. Je vais m'éclairer un petit peu avec l'écran de l'ordinateur. Et donc, je vais pas lire, mais je vais quand même regarder un petit peu mes notes, parce que ça va quand même m'aider. Alors, en fait, ce n'est pas nouveau. Donc, dans ce début du 19e siècle, on va dire dans la première moitié du 19e siècle, si des peintres viennent travailler en forêt de Fontainebleau, parce qu'en fait, dès le XVIIIe siècle, des peintres se sont déjà rendus en forêt de Fontainebleau. Mais il est vrai qu'entre 1830 et 1860, ça va vraiment être nos dates charnières, si vous voulez. Il fallait bien faire un découpage historique, donc on va prendre ces dates-là. Entre 1830 et 1860, ce petit village de Barbizon devient donc le lieu de rencontre d'artistes qui... pourquoi décide-t-il de venir à Barbizon? Donc, plusieurs raisons. Mais la raison, je vais dire, artistique essentielle, c'est qu'il ne se retrouve plus du tout dans les règles très académiques qui régissent les tableaux de paysage. Vous savez que l'académie, elle fixe des règles très strictes. Pour le portrait, pour les tableaux, les tableaux religieux, les tableaux historiques, les natures mortes, les scènes de genre, et le paysage également, hein, qui fait partie. Bon, les scènes de genre sont considérées toujours comme mineures, par contre, que le paysage, lui, est quand même bien présent dans toute l'histoire de l'art depuis le début, je dirais. Et donc, ces règles très académiques, très strictes, eh bien, ne correspondent pas du tout à ces peintres. Et si vous vous souvenez, pour les nabis, eh bien, nous avions eu la même réflexion. Hein. Les peintres nabis ne se retrouvaient plus non plus, voulaient révolutionner. Hein. Donc, ils s'étaient appelés les nabis, les prophètes, parce qu'eux aussi ont voulu voir au-delà. Hein. Alors, en fait, celui qui va y séjourner le premier, c'est pour ça que je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, c'est Corot. Hein. Corot va y séjourner en 1831. Et à la suite de Corot, donc, vont arriver Théodore Rousseau, donc considéré comme le père de l'école, Jules Dupré, Charles-François Daubigny, Narcisse Diaz de la Peña. Alors, comme il y a le petit accent sur le N, hein, c'est pour ça. Ah oui, voilà, merci. Je savais pas le... Parce que j'ai pas fait d'espagnol. Simplement, je sais qu'il se prononce mieux. J'avais demandé à la prof au collège. Et donc, tous ces artistes, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr, notamment un que je vous citerai tout à l'heure, et je rendrai encore hommage à quelqu'un de l'UTB tout à l'heure. J'ai eu ce matin au téléphone. Et tous ces artistes viennent peindre dans la forêt et les lieux avoisinants. Alors, comment ces artistes se débrouillent-ils? Eh bien, ils prennent leur chevalet sous le bras et ils partent dès le matin jusqu'au soir, donc pour toute la journée, en plein air. Et puis, de retour à l'atelier, quand ils vont rentrer donc plutôt à Paris, là, ils feront quelques retouches. Alors, tous ces artistes, pas tous, mais enfin la plupart, surtout au début, donc loge à l'auberge Gannes, chez le père et la mère Gannes, hein, on disait bien, pour les impressionnistes, il y aura une autre auberge aussi célèbre, hein, dont je vous parlerai dans les années futures, et donc qui est l'actuel musée de Barbizon. Alors, les artistes de l'école de Barbizon vont vivre en fait deux révolutions importantes. Hein. Ce sont peut-être des mini-révolutions, mais pour eux, ce sont des révolutions, comme pour moi à l'informatique, des révolutions importantes. La première, c'est qu'en 1834, apparaît le tube de couleur. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que le tube de couleur, ben, ça veut dire que dans leur bagage, ils vont être un peu moins chargés. Ah ben, c'était tous les mélanges que l'on préparait avec les, vous savez, avec tous les livres, donc les, tous les pots. Bon, il y en a qui vont continuer de travailler de cette façon. Mais si vous voulez, c'est quand même très très important d'avoir le tube de couleur. Parce que bon, bah, c'est beaucoup plus léger, c'est plus commode à emporter dans les déplacements, entre autres. Ça ne les empêchera pas de continuer à travailler leur mixture à l'atelier, hein, mais pour les déplacements. Et puis l'autre révolution, elle vient un petit peu après, c'est 1849, c'est le chemin de fer de Paris à Melun. Alors ça, évidemment, ça leur permet d'accéder facilement à la forêt, à Fontainebleau. Pour les Parisiens, c'est génial. Donc, pour eux, ce sont deux révolutions tout à fait capitales qui ont lieu. Alors, donc, tous ces artistes, puisque vous savez qu'on aime bien, dans les historiens de l'art, on aime bien comme ça dire, ben voilà, il y a tous les ismes, hein, que vous connaissez, et puis, bon, ben là, voilà, l'école de Barbizon. Alors, il y a les pré-raphaélites en Angleterre. Alors, l'école de Barbizon, finalement, c'est un vocable qui n'est pas forcément juste, parce que école ne veut pas dire grand-chose dans ce... C'est un petit peu... Les nabis, vous aviez vu, on les a regroupés sous le vocable de nabis parce qu'eux-mêmes se sont dit prophètes, donc on les a regroupés, mais vous avez vu combien leurs travaux, leurs œuvres sont différentes. On ne veut pas parler d'un style nabi. Ils sont groupés par deux, par trois, mais ils sont quand même tous très différents. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu la même chose. Tous vont peindre des paysages, mais il n'y a pas non plus un style école de Barbizon, hein. Donc, ce terme d'école peut sembler un petit peu abusif, mais bon, il fallait bien trouver un vocable, donc nous allons le garder. Alors donc, certains vont faire de Barbizon et de ses environs la source principale d'inspiration, mais il faut bien savoir que d'autres artistes ne vont y effectuer que de très brefs séjours. Il y en a vraiment qui vont, un petit peu comme Montmartre, quand on parle de Montmartre, il y a vraiment des artistes qui vont y habiter. Et puis des artistes, par exemple, comme Cézanne, ben, il va y passer que quelques jours. Hein. Un petit peu comme pour Pont-Aven, Gauguin. Gauguin, il n'y a peut-être passé que quelques heures. Hein, mais voilà, il a été présent. Hein. Alors, par contre, pour les grouper, ce qu'ils ont, il est sûr, en commun, c'est un amour profond de la nature. Donc ça, c'est unanime. Mais chacun va l'exprimer avec sa propre sensibilité et surtout avec son propre style. C'est pour ça que je ne veux pas parler de style école de Barbizon. Ça, faut l'oublier. Alors, les pionniers, bien sûr, cherchent avant tout à Barbizon un monde nouveau que l'on pourrait qualifier pour eux de sauvage par rapport aux grandes villes. Alors, les arbres, donc les forêts, les bois, les étangs, les mares, les animaux, parce que vous allez voir qu'il y a des peintres animaliers dans cette école de Barbizon, tout ce qui contribue en fait à rendre la nature vivante. C'est ça qui est essentiel. Et puis bien sûr, j'en ai aussi déjà parlé, je l'ai déjà cité parce que c'est tellement important quand on peint, la lumière. La lumière, aux différentes heures du jour, dans les diverses saisons, Et puis, bien sûr, tous les effets atmosphériques. Hein, c'est ce que je vous parlais de climat tout à l'heure, ce que j'essayais un petit peu de vous traduire, parce que la rosée, la pluie, la neige, le vent, et bien tout ça font que dans la peinture, ça va se traduire de façon différente. Et bien, tous ces éléments vont devenir, bien sûr, des thèmes de prédilection pour ces peintres qui sont avides de motifs nouveaux et de motifs authentiques. Et c'est cette authenticité qu'ils viennent chercher dans le plein air. Et c'est là où ils sont précurseurs pour les impressionnistes, hein, qui vont aussi peindre dans un premier temps, après ils se scindront. Et dans un premier temps, ils vont aller aussi, les impressionnistes, directement in situ, sur les lieux. Et bien sûr, ce qui va primer pour eux, comme je vous l'ai dit aussi très très vite, mais là j'insiste, ce n'est pas les sentiments, mais l'observation. Ça c'est vraiment le mot-clé, c'est l'observation qui va primer pour ces artistes. Alors en fait, on va assister, fort logiquement je dirais, si l'on songe à la réalité de la situation plus technique, je dirais, du paysage en cette première moitié du XIXe siècle, eh bien, à Barbizon et en forêt de Fontainebleau, aucune rupture. C'est pas aussi, c'est pas comme par exemple les deux tableaux phares des Nabis, qui étaient donc le petit tableau, le talisman que je vous ai montré, hein, de Paul Serrusier. Là, bien sûr, ça, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une telle rupture qui était finalement presque le premier tableau abstrait. Hein, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus les taches de soleil sur la terrasse, hein, que je vous avais également montré. Il n'y a pas une rupture aussi forte. Hein. Ici, en fait, ne cherchons pas de rupture. Hein, mais, dans les, mis à part le fait qu'ils vont aller en plein air. Et puis, il n'y aura pas non plus de rupture entre la première génération des peintres barbizoniens, les suiveurs. Tous vont travailler de concert, vont travailler ensemble, je dirais. Les premiers arrivés, 1820, c'est Corot, Fleury, Caruel d'Aligny, dont je vous montrerai un tableau. Et ils ont continué à travailler longtemps après eux, après l'arrivée des autres, de ceux que l'on a appelés les romantiques, qui arrivaient avec l'esprit romantique, c'est-à-dire Rousseau, Diaz, Dupré. Et même pour certains d'entre eux, après l'installation des peintres phares, tels que Millet, et puis un autre, Jacques. Jacques, en 1848. Et Jacques, justement, j'y reviendrai, parce que sans le savoir, il est proche de nous. C'est un barbizonien qui est proche de nous. Bien, alors, après cette introduction qu'il fallait quand même mettre en place, je vais maintenant donc vous montrer un petit diaporama avec certains tableaux que nous avons choisis pour introduire donc ces peintres barbizoniens. Alors, j'ai suivi l'ordre de ce que j'ai prévu de travailler ensuite au niveau de mes conférences. C'est pour ça que le premier tableau, eh bien, c'est Jean-Baptiste Camille Corot. Ah ben, c'est très bien, je voulais vous donner ses dates, mais je vois que Monsieur Collin a mis les dates, donc c'est parfait. Il est né à Paris, Corot. Donc, le pont de Narni, qui est une huile sur papier, sur toile, qui est en fait une étude, hein, c'est une esquisse, qui mesure 34 par 48 cm et qui est conservée au Louvre, à Paris. Alors cette étude, elle a été peinte en 1826 et elle aurait vraisemblablement servi pour une très grande composition qui a été exposée au salon de 1827, donc un an après. Et cette grande composition se trouve aujourd'hui à la National Gallery of Canada à Ottawa. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Corot, bon, je reviendrai longuement sur Corot, bien sûr, mais là, je vous le dis quand même par rapport à ce tableau-là, Corot, avant la fin de 1825, va se rendre en Italie. Ça, c'est important pour la compréhension du tableau. Et donc, dans cette esquisse exécutée à l'huile, à un moment de la journée précis, c'est une observation visuelle, avant tout. J'ai dit que j'emploierais souvent ce mot. Il ne tient effectivement pas compte des sentiments. Là, il est froid, je dirais. Il n'y a pas quelque chose de personnel dans cette œuvre. Déjà, il n'y a aucun personnage. Et ici, la peinture va être, comme souvent dans ces tableaux de cette période-là, maniée à la hâte par le peintre. Et il va bien sûr faire varier couleurs, formes et lumière. Alors, si on regarde davantage, on est vraiment dans l'esprit des premiers tableaux de Corot, là, de cette époque-là, je dirais. Après, la peinture, notamment quand il va se rendre en forêt de Fontainebleau, la représentation des arbres sera très, très différente. Hein. Ici, finalement, on est plus proche, si vous regardez des tableaux de peintres réalistes tels que Courbet, par exemple, on est plus dans cette... ou même, finalement, pourquoi pas, Gauguin, certains tableaux de Gauguin aussi. Alors, lui, bien sûr, ça vient après. Hein. Mais on est dans cet esprit tableau, on va dire, tableau naturaliste, tableau réaliste. Hein. On n'est pas encore pleinement avec ce tableau-là dans l'école de Barbizon. Mais le but, c'était pas de vous montrer que des tableaux de l'école de Barbizon, c'était de vous montrer les artistes sur lesquels je vais m'entretenir avec vous lors des prochaines conférences. Alors, j'ai mis un second tableau qui, là, par contre, est beaucoup plus proche de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous disais garder en mémoire les arbres que vous pouviez voir, justement, en forêt de Fontainebleau. Eh bien, ici, le tableau de Corot qui s'intitule « Une matinée, la danse des nymphes », qui a été présenté au salon de 1850-1851, qui est conservé à Orsay. Et c'est pour ça que vous avez ici « Dépôt du Louvre ». C'est un tableau que l'on voit aujourd'hui à Orsay. Quand il est montré. Alors, ici, on a cette atmosphère qui traduit un sentiment de mélancolie. Et ce sentiment de mélancolie va s'accentuer dans les années qui vont suivre dans l'œuvre de Corot. C'est quelque chose qui va lui être cher. Donc là, vous voyez, quelque chose qui va s'accentuer dans les tableaux tardifs. Donc dans les tableaux qui ne seront plus école de Barbizon. Alors ici, on a juste une petite impression de ce sentiment de mélancolie, puisque je vous ai dit qu'avant tout, pour Barbizon, c'était l'observation et pas trop les sentiments. Mais il y a quand même, au lieu de dire sentiment de mélancolie, on va dire atmosphère. Atmosphère de mélancolie dans ce tableau, ne serait-ce que dans la lumière qui règne. Hein. Mais la danse des nymphes, donc vous voyez, c'est quelque chose de mélancolie, mais en même temps, ce serait plutôt nostalgie que mélancolie, préférerais dire, parce qu'il y a quelque chose de joyeux avec cette danse. Et donc, regardez cette façon très particulière de représenter les feuilles, notamment si vous, le groupe de danseuses, là, vous voyez, qui est au pied de l'arbre. Si vous grimpez l'arbre, regardez la légèreté des feuilles, toutes petites feuilles, là, qui se plaque sur la masse touffue de l'autre arbre. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de Corot. De même que ces petites feuilles que vous avez là, à l'extrême gauche, le personnage qui lève le bras, voyez, ces feuilles qui sont comme presque en filigrane. Et bien ça, c'est tout à fait caractéristique de Corot. On le retrouve dans l'arbre, ici, à l'extrême droite. Et puis, justement, en contradiction avec cette légèreté, eh bien, vous avez ces arbres très touffus, hein, comme on peut les voir dans les paysages réels de la forêt de Fontainebleau que vous aviez tout à l'heure dans les vues d'époque ou dans les vues actuelles. Alors, ça, c'était donc pour présenter Corot. Je vais maintenant vous présenter alors Théodore Rousseau, qui est donc le père de l'école de Barbizon. Alors, groupe de chaînes Apremont. Tout à l'heure, je vous avais montré Apremont parce que je vous ai dit qu'il y aura un tableau qui fera allusion. Alors, ce que je vais simplement vous préciser, Théodore Rousseau est né à Paris et il est mort à Barbizon, justement, lui. Alors, c'est ici une huile sur toile qui mesure 64 cm par 100 cm par 1 mètre. Elle a figuré à l'exposition universelle de 1855, cette œuvre, et elle est conservée aujourd'hui au Louvre. Donc, bien sûr, c'est un paysage totalement naturaliste. Observé avec soin, il se place ici en dignité, eh bien, de toute la tradition des tableaux, de Ruisdael, par exemple, hein, si on prend les peintres de paysage. N'hésitez pas, hein, ça c'est des choses que vous pouvez faire par vous-même, parce que là c'est pareil, je ne peux pas le faire en parallèle, je n'aurai pas le temps, même si on m'a octroyé, j'ai la chance de pouvoir vous rencontrer 6 fois, je crois. Mais Il est vrai que, bon, bah, il est par vous-même, vous pourrez aller regarder un petit peu dans les paysages, tout ce qui est hollandais, tout ce qui est. C'est intéressant, et puis après, vous pourrez comme ça plus facilement comparer. Hein. Donc, je pense à Ruisdael, je pense à Obema aussi, hein, que je peux citer ici. Et en fait, Rousseau, il est intéressant parce qu'il va être un des premiers à appliquer les leçons de Corot. Et il vient peindre en plein air à Fontainebleau, hein, d'ailleurs, où il séjournera lui longuement, puisqu'il y terminera sa vie. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous disais que les artistes de l'école de Barbizon étaient considérés comme des, on va dire, des architectes ou des sculpteurs d'arbres, eh bien, ici, on a tout à fait c'est tout à fait ce qui se passe, puisque l'arbre, c'est un portrait d'arbre, j'ai envie de dire. Un portrait d'arbre ici. Mais voyez que vous avez néanmoins, nous sommes dans la campagne, dans la nature, donc vous avez les vaches qui paissent paisiblement, vous avez des personnages, et puis vous avez toute la végétation tout autour, les champs hein, qui sont là, tout autour, les pâturages qui sont là. Voilà. Donc, il y aura tout un travail aussi quand je décrirai les tableaux, quand je travaillerai sur Rousseau, on regardera aussi en même temps les ciels hein, qui sont très très particuliers à l'école de Barbizon. Hein, j'ai eu l'occasion de faire une série d'un cycle que j'avais créé sur les ciels dans la peinture, mais à toute époque. Et c'est vrai que dans les ciels de l'école de Barbizon, qui descendent relativement bas, vous hein, voyez, le ciel occupe trois quarts du tableau, hein, ou deux tiers, peu importe comment on le situe. Hein, mais on peut dire deux tiers, là, hein, si on le coupe en trois parties. Donc c'est intéressant aussi de regarder tout ça. Mais nous y reviendrons, bien sûr. Alors, autre tableau de Théodore Rousseau, Clairière dans la haute futaie, forêt de Fontainebleau. Et ce tableau, on l'intitule souvent la charrette, évidemment, la charrette qui est toute, toute petite, hein, mais qui nous arrive. On voit le sillon, là. Hein, ici. Et donc, c'est un tableau de taille moyenne, on va dire, hein, créé en 1862, qui a figuré au salon de 1863. Et donc, il est conservé également à Orsay. Alors ici, même si nous avons la charrette, il règne tout de même dans ce tableau une atmosphère de calme, de méditation silencieuse, hein, et puis de respect, j'aime bien employer ce mot là dans ce cas-là, de respect pour le paysage à l'état naturel. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que le peintre est allé donc in situ hein, pour peindre ce tableau. Alors, le format est intéressant, hein, parce que justement, il permet à la charrette de ne pas être au centre, ce qui est beaucoup plus intéressant dans la construction du tableau, hein, parce que ça permet déjà, votre œil se promène dans le tableau, et il n'est pas, bien sûr, même si on est attiré tout de suite, et à juste titre, je dirais, par la charrette, puisqu'il y a le blanc, hein, le blanc de l'animal qui nous, évidemment, qui attire notre œil, mais puis la lumière, la tache de lumière, bien sûr, et sur le sillon qui nous y entraîne. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de naviguer finalement parmi ces masses touffues, parce que vous voyez que à l'extrême gauche, eh bien, vous avez tout de même également une simple. Regardez sur le tronc d'arbre, le tout petit point blanc. Fait que cette masse touffue qui pourrait être sombre, eh bien tout d'un coup s'éclaire. Hein. Et même chose pour l'arbre suivant. Hein, voyez. Donc comment on va se promener. Et puis là encore, bah, observez ce ciel, très intéressant. Puis comment la lumière vient baigner ici, vous voyez, le centre décalé, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Mais là encore, c'est pareil, nous ferons une étude plus approfondi par la suite. Alors, je regarde l'heure parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas toujours bien. Ça va, là, j'ai le temps. Alors, je passe maintenant à donc Jean-François Millet. J'ai voulu vous montrer, bien sûr, je ne vous ai pas mis les traditionnels glaneuse, ni l'angélus, parce que j'ai dit, bon, allez, on va sortir un petit peu. Mais comme il a représenté beaucoup de figures de paysans, donc c'est pour ça que je vous ai quand même mis cette jeune fille. Donc, la fileuse chevrière auvergnate. Alors, elle n'est pas de Barbizon, elle est auvergnate, hein, mais ça ne fait rien. Le but, c'était plutôt de vous montrer Jean-François Millet. Donc ce tableau date de 1868-1869. Il est conservé à Orsay également. Il mesure 92,5 par 73,5. C'est une huile sur toile. Et donc ici, vous avez donc un gros plan sur cette fileuse. Mais regardez comment eh bien, Jean-François Millet va s'intéresser à la fois à la nature, c'est-à-dire à cette mode de terre et d'herbe, si vous voulez, sur laquelle la jeune fille s'assied, hein, avec le sol au tout premier plan, là aussi où c'est intéressant, où on voit les, on voit des cailloux, on a vraiment l'impression de rentrer dans dans le tableau, on pourrait venir s'asseoir à côté de la jeune fille. Et puis on voit à l'arrière-plan les chèvres, hein, parce qu'il y avait, vu les cornes, ce ne sont pas des vaches, là, ce sont des chèvres. Hein. Il y a une chevrière, en principe, elle s'occupe de chèvres. Donc, et vous avez aussi les nuages. Alors, c'est très intéressant de faire figurer le buste de la jeune fille, finalement, sur le ciel. Hein, c'est le ciel qui lui sert de fond, hein, et de voir comment le personnage eh bien, se détache, justement, de ce ciel qui, lui-même, est très intéressant. Et quand on regarde dans les tableaux de Millet, finalement, le bleu de ce ciel... On pourrait presque dire c'est le bleu Millet, parce qu'on le retrouve très très souvent dans les tableaux de Jean-François Millet. Donc là vraiment une. Alors là par contre, elle est vraiment en plein centre. Hein. Ça, c'est vraiment un choix aussi de l'artiste. Hein. Mais voyez que le visage, pardon, n'est pas si éclairé que ça. La quenouille, hein, finalement, ici, là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus éclairé, finalement, ça se détache beaucoup plus du nuage, bien que ce soit finalement presque la même texture, parce que souvent on dit que les nuages sont floconneux, ça se détache beaucoup plus que le visage. Alors, autre tableau de Millet que je vous ai montré. Alors là, j'ai eu envie, comme j'avais vu cette exposition, puis que je trouvais très intéressant, j'ai eu envie de vous montrer la nuit étoilée de Millet, parce qu'on montre toujours la nuit étoilée de Van Gogh. Mais en fait, le précurseur, ce n'est pas Van Gogh. Le premier tableau, c'est Millet. Alors, bien sûr, elles n'ont rien à voir, les deux œuvres. Mais néanmoins, elles sont très... Et moi, d'avoir vu les deux côte à côte, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est évident. Et alors, ce que j'ai par contre appris, c'est pour ça que j'ai amené le catalogue, parce que là, je vous dirai juste un petit passage, parce que j'ai trouvé très intéressant. On sait que Van Gogh, alors je vais tout de suite vous montrer le tableau, je sais que je peux revenir en arrière, donc je vais vous montrer celui de Van Gogh, voilà. Celui de Van Gogh. Hein. Alors, le tableau de Van Gogh, on sait que Van Gogh, lui, avait une obsession pour une nuit de campagne étoilée, et en fait, apparemment, Van Gogh, qui travaillait quand la nuit étoilée qui faisait partie de la succession de Millet fut vendue en 1875 à Paris, Van Gogh, qui travaillait alors pour les marchands d'art Goupil et compagnie, quitta ce mois-là la filiale anglaise pour le siège parisien, mais apparemment, il n'aurait pas, on vous dit, la possibilité qu'il ait vu l'œuvre de Millet peut après paraître mince. Donc, il n'est pas du tout sûr qu'il ait vu avant l'œuvre de Millet. Mais lui, il avait très envie, Van Gogh, en fait, au départ, de faire également une vue sur la campagne. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit, puisqu'en fait, Van Gogh, qui rêvait de peindre une nuit étoilée, ne réalisa son souhait que fin septembre 1888, alors que celle de Millet date de 1855-1867. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus tard. Et il abandonna son projet initial dans lequel la nuit s'étendait au-dessus des champs. L'artiste fit le choix d'un ciel semé d'étoiles dominant la ville d'Arles, vue de la rive gauche du Rhône. La représentation de la ville n'est pas tout à fait fidèle à la réalité, car la composition montre deux parties distinctes et indépendantes. Le regard se porte vers le sud-ouest, faisant apparaître le côté nord-est, mais l'on voit dans le ciel les étoiles septentrionales de la Grande Ourse, situées en fait derrière l'artiste au moment où il peignait la ville. Van Gogh préféra, pour représenter sa chère nuit étoilée, La ville éclairée à la campagne sombre et vide, source de difficultés potentielles. En choisissant les champs, il aurait disposé d'une seule source lumineuse, le ciel plein d'étoiles. Donc là, vous voyez, c'est un choix. Alors que Millet, lui, donc si j'en reviens maintenant à Millet, voilà. Millet, lui, choisit bien sûr la campagne. Ça, là, on le voit. Mais moi, je la trouve tout à fait fabuleuse aussi, cette nuit étoilée-là. Parce que, si vous voulez, celle de... Maintenant, quand on regarde les deux, on se dit, celle de Van Gogh, elle fait presque surfaite. Si vous voulez ce que je veux dire, un petit peu comme s'il y avait un feu d'artifice d'étoiles. Alors que celle-ci, finalement, quand on est dans la... Parce que, bien sûr, pour bien voir les étoiles, de toute façon, pourquoi aujourd'hui, nous avons parfois du mal à... On dit, il n'y a plus d'étoiles. C'est faux. Il y a toujours autant d'étoiles, mais c'est les lumières de la ville qui nous obstruent nos étoiles. Mais quand vous vous trouvez vraiment en pleine campagne où tout est éteint, eh bien là, vous voyez que les ciels étoilés, ben, ils sont fabuleux. Et en fait, Millet, là, a trouvé ce ciel fabuleux au-dessus de la campagne. Hein. Et il y a des tableaux, justement, il y a des tableaux anglais où on a ce genre de ciel étoilé, un petit peu à la façon de Millet, qui sont fort intéressants également. Hein. Donc, vous voyez, c'est une huile sur toile contrecollée sur bois, 65 par 81 cm. Qui est conservé à New Haven. Donc, très très beau tableau de Millet. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ah, là, j'ai plus volontairement davantage commenté celui de Van Gogh, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sera de vous commenter celui de Millet, bien sûr, quand nous travaillerons sur Jean-François Millet. Voilà. Donc, j'y reviendrai. Et je vous montre maintenant un tableau de Narcisse Diaz de la Peña, la forêt de Fontainebleau en automne. Alors, il est né à Bordeaux en 1807 et il est mort à Menton en 1876. C'est une huile sur bois, donc selon la tradition ancienne de la peinture, quand on faisait le... Je pense au portrait de Louis XI, hein, qui est un des premiers portraits réalisés sur bois. Ce tableau mesure 30 par 41 cm et il est conservé à Lisbonne, au musée Calouste Gulbenkian. Voilà. Donc, ici, vous avez quelque chose de... Bah, vous voyez bien, tout à l'heure, nous avions des vues comme ça avec des chemins. Là, vous avez un personnage, hein, qui lui non plus n'est pas complètement central. Ce qui est beaucoup plus central, c'est cet arbre mort. Hein? Et c'est intéressant de voir le personnage justement à proximité de cet arbre, hein, qui ce beau tronc d'arbre là. Et vous avez donc la végétation tout autour. Vous voyez les rochers, hein, tels que vous pouviez les voir tout à l'heure sur les vues, sur les photos. Aussi bien d'époque qu'aujourd'hui en forêt de Fontainebleau. On en voit encore un ici, vous voyez, on peut les distinguer, les différents rochers. Et vous avez bien sûr ici tout un jeu de lumière avec les couleurs d'automne qui vont se prêter justement à ce jeu de lumière et une façon donc très particulière de représenter cette végétation. Avec ces arbres touffus, ces troncs d'arbres qui, eux, vont se dresser comme des spectres au milieu de cette végétation. Et puis, aussi, la lumière portée sur le chemin qui nous emmène jusqu'au petit personnage. Donc, selon les artistes, hein, certains aimeront bien mettre des personnages dans leur tableau. Alors ici, je vous montre... Crépuscule sur le loin, un tableau de Charles d'Aubigny qui est conservé à l'auberge Gannes, donc à Barbizon. Alors là, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas reçu le catalogue que j'attendais. Oh, je sais d'ailleurs, en principe, il y a certains tableaux seront répertoriés dedans, mais la dame m'a dit qu'il n'y avait pas tout parce que je n'ai ni les mesures, mais je pense que c'est une huile sur toile hein, d'après la texture, ça je peux vous le dire, mais je n'ai pas les mesures de ce tableau. Parce qu'on l'a trouvé sur Internet, hein, je crois, celui-ci, hein, c'est ça, voilà. Donc, je n'ai pas les... Par rapport à mes livres, je n'avais pas les... Il n'est pas dans l'exposition de... dans l'exposition de Lyon, donc il n'est pas dans le catalogue. Hein. Alors, donc là aussi, Charles d'Aubigny, autre artiste, bien sûr, important. Il est né à Paris en 1817 et il mourra à Paris en 1878. Il a fait, bien sûr, il a même sa maison, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il a fait des séjours à Barbizon. Alors, vous voyez encore quelque chose de différent ici, avec, bien sûr, automatiquement, à partir du moment où vous avez de l'eau, donc avec les reflets, avec le ciel, hein, ça c'est très intéressant, le rapport entre le ciel et l'eau. Et puis cette végétation, donc c'est le crépuscule. Hein. Donc voyez comment ils vont travailler la lumière justement en fonction des différentes heures du jour et des saisons. Hein. Donc là, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu comment ces artistes. C'est vrai qu'à la même époque, eh bien à Paris, on n'est pas du tout, on ne fait pas des paysages. On est davantage dans la représentation. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes, on représente beaucoup. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis procuré un ouvrage sur les ateliers d'artistes et c'est très intéressant de voir comment ils représentent leurs ateliers. Donc, il y a beaucoup de représentations d'ateliers d'artistes. Et puis, on continue de travailler sur la grande peinture d'histoire, sur les tableaux, sur la mythologie aussi, bien sûr. Hein. Dans une peinture très académique, très, très rangée, on va dire. Alors que là, eh bien, on est dans un tableau où on voit bien que la nature est maîtresse, la nature reprend ses droits, et c'est ce que l'on montre ici. Avec aussi, ce que je trouve très intéressant, dont je n'ai pas encore parlé, un cadrage, qui est le cadrage photographique. Donc on privilégie, là il y a l'artiste privilégie une partie de son paysage et on le voit bien avec le tout petit morceau d'arbre que l'on aperçoit à l'extrême gauche. Hein. Et ça c'est intéressant de voir cette nouvelle façon de cadrer les choses, hein, puisque bon ben bien sûr la photographie commence de, ça c'est vraiment là on voit elle commence à peine de s'installer, hein. Mais c'est intéressant de voir cette façon de travailler. Alors maintenant, un tableau de Constant Troyon. Constant Troyon est né à Sèvres en 1810 et il est mort à Paris en 1865. Alors ici, le tableau garde-chasse arrêté près de ses chiens. C'est une huile sur toile qui mesure 1,17 m de haut par 90 cm. Il est conservé à Orsay, ce tableau. Et donc là, on va avec Troyon, on arrive à ces peintres dits animaliers, hein, qui vont avoir un sens aigu de l'observation animale. Mais d'ailleurs, vous voyez, là, ici, il fait davantage le portrait des chiens que du garde-chasse, puisque lui, il a le visage caché par son chapeau, hein, et finalement, il est penché vers ses chiens. Et le tout premier plan, ce sont vraiment les chiens. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est de voir comment l'artiste, justement, va orchestrer son tableau par rapport aux animaux, comment il va placer les arbres, justement, de part et d'autre, hein, avec ceux qui se trouvent tout de suite en second plan, juste derrière le dos du garde-chasse. D'ailleurs, avec, c'est intéressant, le fusil dans la diagonale qui nous emmène donc directement vers cet arbre. Vous voyez comment on peut lire le tableau. Et alors, plus je le regarde, ce tableau-là, plus je le trouve géométrique dans sa conception. Hein. Parce qu'on a une espèce de triangle, pas vraiment triangle, mais presque, avec les chiens. Hein. Et puis après, donc, on a ce personnage qui fait un peu une parallèle avec le tronc d'arbre. La diagonale, là, donc, très intéressante du fusil qui nous emmène vers les... Et puis on a cette espèce de on va dire parallélogramme, c'est pas vraiment un rectangle, hein, qui est le ciel, qui tombe relativement bas. Hein. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la façon dont Troyon a construit son tableau. Et puis le chemin qui nous entraîne, qui serpente, et qui nous entraîne vers un horizon qui finit par être bouché par le ciel. Donc là, hein. Et avec ces arbres au loin, ces arbres qui nous montrent leur gigantisme par les troncs d'arbres qui, en fonction de la proximité, sont de plus en plus fins et de plus en plus longilignes. Alors, Troyon, tout à l'heure, j'ai vous montré une artiste, ceux qui, il y a très longtemps, avaient suivi, je l'avais fait, je crois, Chalon, le cycle sur les femmes artistes, non ? Oui, si, je l'avais fait. Et donc, j'avais montré Rosa Bonheur. Et Rosa Bonheur, ben, bien sûr, elle va un petit peu séjourner à Barbizon et elle va s'inspirer de Troyon, entre autres. Elle va regarder ces artistes-là. Alors ici, maintenant, Jules-Louis Dupré, c'est un Nantais. Il est né en 1811 à Nantes et il est mort à l'Isle-Adam en 1889. Je vous montre ici la mare aux chênes. Tout à l'heure, j'ai cité dans les rivières, les mares, etc. Huile sur toile qui mesure 1,02 m par 84 cm. Tableau conservé à Orsay. Donc, n'hésitez pas, profitez-en, retournez voir ce fabuleux musée. Et donc ici, vous avez... Alors bon, on a un petit peu... Parce que ça, c'est pas toujours facile au niveau de l'image de départ, au niveau des couleurs. Donc je pense que c'est un petit peu saturé, mais ça ne fait rien. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment les reflets vont se traduire dans l'eau, comment il va y avoir tout un camailleux, j'ai envie de dire, de ces rouges un petit peu saturés ici, mais de ces rouges orangés qui sont à la fois les taches des vaches et puis les reflets dans l'eau, la terre aussi au sol, et puis donc ces arbres avec ces trouées de lumière, ça c'est très très intéressant au niveau de... Regardez comment les arbres qui sont dans la dernière partie du tableau, donc dans la partie droite, là, tout à fait dans le fond du tableau, sont absolument en harmonie avec les nuages. On a vraiment, vraiment l'impression qu'ils ont été... C'est quasiment la même forme. Vous voyez, c'est très, très intéressant. Et moi, je sais que j'aime beaucoup regarder les ciels et les nuages parce qu'en fait, parfois, on a des surprises. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme si, vous voyez, le nuage qui est là devenait l'ombre de l'arbre. Et c'est intéressant. Oui, voilà, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, une espèce d'osmose entre les deux. Et ça, c'est vrai que seule l'observation en pleine nature peut vous permettre de saisir, justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté... Tout à l'heure, je vous parlais de cadrage photo. Pour la première fois, j'ai parlé de cadrage photographique. Eh bien, j'ai envie de parler... Un mot que j'ai pas forcément trouvé, cité souvent, mais qui me fait penser en regardant ce tableau-là, il y a un côté instantanéité. Et ça, c'est vrai que c'est possible aussi que quand vous êtes sur place, in situ. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec nos appareils photo. Mais ce côté-là, eh bien, il est bien montré dans ces tableaux. Et notamment, ça m'y fait penser avec le tableau de... Mais toujours, vous voyez, ici, ce sentiment de paix, de silence, de tranquillité, comme on a encore dans nos petits villages qui malheureusement souvent sont abandonnés maintenant, mais tous ne sont pas heureusement, mais on se ressource au niveau de la tranquillité, de la paix, et on comprend pardon, comment déjà à l'époque ces artistes avaient besoin de... Il y avait non seulement la rupture, donc comme je vous l'ai dit, avec le côté académique des règles qui étaient préconisées pour la réalisation des paysages, mais également ce havre de paix que représentait la campagne proche de Paris, finalement. Qui devenait proche de Paris. Alors, et c'est ici où je vais faire allusion à quelqu'un que vous connaissez tous, ou la plupart. Quand j'ai donné mon programme par téléphone à Muriel, vous direz que je l'ai cité, parce que je l'ai remercié ce matin, Muriel, elle devient célèbre. Quand je lui dis Charles-Jacques, alors je lui dis Jacques sans S, ah, mais elle me dit, il y a une école à Épervent, il y a une école Charles, Émile, Jacques. Ben, je lui dis, oui, mais ici, mon Charles, il ne s'appelle pas Émile, je lui dis. Il s'appelle que Charles. Et puis, je lui dis, mais attendez, je note, parce que c'est peut-être de la famille, ça s'écrivait bien Jacques sans S, c'était tout pareil. Et puis, ça m'a interpellée, alors j'ai essayé de chercher dans ce que j'avais, j'ai rien trouvé. Puis ce Charles, Jacques, on en parlait tout de même pas mal. Et puis l'autre jour, quand je suis allée travailler avec Monsieur Collin, je lui ai dit, mais au fait, voilà ce que m'a dit... Alors j'avais lu qu'il était né à Paris en 1813, qu'il était également décédé à Paris en 1894, donc il est venu vieux. Il n'allait pas à l'UTB, mais il est venu vieux quand même. Mais j'ai compris pourquoi, il était de notre région finalement. Et donc, il est défini comme peintre animalier, graveur français, représentant avec Jean-François Millet l'école de Barbizon. Là, je vous lis ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, entre autres. Et puis, je vais vous lire juste un petit passage, juste le début de sa biographie. Donc, il commence par faire un apprentissage de graveur chez un fabricant de cartes géographiques. Se trouve enrôlé dans l'armée la même année, participe au siège de la ville d'Anvers au cours de la Révolution belge. Il terminera sa période militaire en 1835 avec le grade de caporal. Il reprendra sa formation aux activités artistiques en autodidacte. Il fera de nombreux séjours à Épervent, où sa famille réside depuis 1830. Il réalisera un grand nombre de paysages et de représentations de la vie quotidienne en cette région. Et ce matin, j'ai rebavardé avec Muriel, maintenant que je lui disais, ben, Muriel, formidable, c'est vous qui avez redécouvert Charles-Émile Jacques, parce qu'il s'appelle bien Émile, mais on nommait le Émile. Et elle me dit, mais lors de l'inauguration de l'école, où elle s'est trouvée présente, il y avait non seulement des tableaux, mais il y avait des membres, des descendants de la famille. Il y a encore des descendants. Alors moi, je lui ai dit, il faut absolument que je mette en relation avec la mairie d'Épervent, que j'arrive à retrouver ses descendants, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être sympa de rentrer en contact avec ces gens. Donc voilà, notre amie qui devient encore une auxiliaire précieuse, voilà, à mes recherches. Donc Charles-Émile Jacques, on va l'aimer plus particulièrement, parce qu'il y a un petit côté Saône-et-Loire. Voilà. Donc ici, je vous montre la bergère et ses moutons. On a envie de chanter « il pleut, bergère », mais qu'il ne pleuve pas dans le tableau. Huile sur bois, c'est petit, hein, 24 par 32 cm, et ça appartient à la ville de Fontainebleau. Donc il est vraiment reconnu, et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, ah oui, là on nous met dans Wikipédia, et c'est une erreur, qu'il est décédé, parce que Wikipédia, vous savez, il ne faut pas tout prendre. Je vous ai lu qu'il était, et moi j'ai découvert dans le, je crois beaucoup plus le catalogue, il est mort à Barbizon, il n'est pas mort à Paris. Il est mort à Barbizon. Donc, je sais qu'on peut corriger. Alors, moi, je ne sais pas faire, mais vous corrigerez dans Wikipédia, vous mettrez qu'il est mort à Barbizon. Donc, il est vraiment peintre barbizonien, mais avec un séjour à Épervent, de nombreux séjours à Épervent. Nombreux. Donc, il oscillait, je pense, entre Fontainebleau et Épervent. Ben, c'était pas si loin que ça, finalement. Alors, notre... Vous voyez, là, ici, ben, c'est encore un style différent. On a bien tous nos rochers. Et puis ce ciel qui est intéressant, la façon dont il l'a travaillé, les arbres aussi. Cette petite bergère qui finalement n'est qu'un, j'ai envie de dire qu'un petit point de couleur, mais qui comment elle est, on la voit néanmoins parce que là c'est pareil, si on suit les moutons, ben, notre regard obligatoirement il va aller jusqu'à la bergère qui est vêtue de blanc. Hein, donc notre œil va quand même, on la repère relativement vite, notre bergère. Hein. Et puis, vous voyez comme différentes taches de couleurs mettent en relation. Oui, apparemment, si elle a rien sur la tête, elle est blonde. Mais je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas quelque chose sur la tête. Hein. Je vois entre blond et blanc, c'est pas trop. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bergère d'Épervent ou une bergère de Fontainebleau ou de Barbizon, ça? Je vous laisse le soin de chercher. Ça sera là. Il n'y aura pas de recherche possible. Ah, c'est dommage. Non, ça c'est bon. C'est pour vous taquiner un petit peu. Je voulais voir si vous étiez toujours bien vivant, bien réveillé. Ça fonctionne. Merci à vous. C'est bien. Donc voilà notre Charles-Jacques, dont je reviendrai aussi bien sûr sur ce... Peut-être que d'ici là, d'ici que j'arrive à lui, j'aurai des... Attendez, j'étais trop vite. Voilà. Et voilà donc, alors on a volontairement choisi de ne pas vous montrer des vaches de Rosa Bonheur, parce que c'est toujours ce qu'on voit. Donc pour changer, on vous a montré des cerfs, et des cerfs dans la forêt de Fontainebleau. Alors ça aussi, nous l'avons pris sur Internet, donc c'est la raison pour laquelle, c'est pareil, là j'ai pas plus de précision pour le moment, je sais même pas son lieu de conservation, hein, celui-ci, on n'a pas trouvé. Donc par contre, c'est bien un Rosa Bonheur, hein, il est signé et il date de 1862. Nous avons tout de même la date. Alors Rosa Bonheur, Marie-Rosalie Bonheur, c'est son vrai prénom, est née à Bordeaux en 1822. Elle est morte en 1899. Et bien sûr, ses peintres modèles, ce sont Jean-François Millet et Gustave Courbet. Et puis, elle regarde beaucoup les peintres animaliers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Troyon. Et elle regarde Jacques aussi. Elle connaît le peintre Jacques, qui lui aussi est considéré comme un des peintres animaliers de l'école de Barbizon. Donc, cette façon toujours de montrer les animaux. Alors, elle privilégie vraiment l'animal. Mais justement, j'ai trouvé ce tableau-là, et je le trouvais intéressant, parce que ici, on voit quand même la nature, hein. Et puis cette façon très particulière à Rosa Bonheur de faire ses ciels. C'est très, on dirait presque une aquarelle ici. Parce que c'est très, très éthéré tout ça tout de même. Et très, j'ai envie de dire, c'est très graphique. Il y a un côté presque gravure, la façon dont c'est représenté. Mais si vous voulez, ce genre de tableau, les tableaux de Rosa Bonheur, ben, c'est ce qu'on a vu très longtemps chez nos grand-mères ou arrière-grand-mères, finalement. C'était pas Rosa Bonheur, mais c'était des reproductions dans le style, hein, les calendriers des postes. Ou même simplement, moi je sais que j'ai encore vu chez ma grand-mère des petits tableaux, ils avaient toujours le même format à peu près. C'était marrant parce que les cadres, j'en ai encore un à la maison, ça fait comme du papier rouloté autour. Et puis il y a toujours un fond qui est un peu, alors c'est soit un peu jaune comme ça, soit un peu rosé. Hein, et c'est toujours dans, on a l'impression que c'est colorié, même carrément. Hein. Et c'est vrai que c'est tout à fait dans cet esprit-là. Alors ici, encore un autre artiste, Alexandre Gabriel de Caen. Donc, forêt de Fontainebleau, sous bois, pardon. Huile sur toile marouflée sur bois. Il est né de Caen à Paris en 1803, il est mort à Fontainebleau en 1860. Le tableau de format très petit aussi, quoi, petit moyen, 34,5 par 23 cm, et c'est conservé à Rouen, au Musée des Beaux-Arts. Donc ici, j'aime bien ce gros plan, hein, ce côté presque réaliste, hyper réaliste même sur ces troncs d'arbres. Hein, j'aime bien regarder quand je me promène, je regarde toujours l'arbre à Manon quand je me promène à Chalon. Eh bien, ici, on y verrait presque un personnage. Hein, on le dirait tout droit sorti dans des contes de Grimm, la maison de pain d'épices, ou, vous voyez, ce genre de... Je trouve assez intéressant ce tronc d'arbre qui est là, d'ailleurs les trois, hein, qui sont là au tout premier plan. Et puis, j'aime bien cette incursion dans l'allée de la forêt, mais qui finalement ne va pas très très loin, mais on a quand même quelques... Le ciel, on le voit pas, ce sont des points de ciel, hein, uniquement. Hein, ce sont vraiment là c'est vraiment la nature arbre qui est vraiment le sujet du tableau de Caen. Donc sur ces artistes, bien sûr, je reviendrai dans une des séances. Et bien sûr... tout ce travail, la lumière, hein, ambiante qui règne dans ce tableau aussi. Hein. Avec si néanmoins, vous voyez les petites trouées, là, moi j'aime bien. Hein, c'est intéressant de voir comment la lumière arrive à percer dans ces tableaux, hein, donc uniquement par l'observation. Et alors, cet artiste-là, finalement, je l'ai mis en... parce que je le trouve incroyablement moderne. Donc j'ai eu envie de le mettre... Au départ, il n'était pas prévu, je ne l'ai d'ailleurs pas jamais cité dans ce que j'ai envoyé à Muriel... Mais je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Je l'avais découvert dans le catalogue. Donc, j'en parlerai même s'il n'est pas cité. Claude Félix Théodore Aligny, dit Théodore Caruel d'Aligny. Mais j'étais sûre que j'avais vu des tableaux de cet artiste. Et en fait, c'est au musée de Lyon. Parce qu'en fait, c'est un artiste qui est né à Chaume, commune de Chantenay, en 1798. Donc, lui, il fait partie du 18e. Il avait deux ans en l'an, quand a démarré le 19e siècle. Et il est mort à Lyon en 1871. Et il y a des tableaux de lui à Lyon. Donc ici, c'est une vue de Fontainebleau, huile sur toile, 35 par 65 cm. Et c'est conservé à Boulogne-Billancourt, à la bibliothèque Marmottan. Je le trouve incroyablement moderne. Et c'est vrai que j'ai presque envie de dire, cet artiste-là, moi, on pourrait presque le situer à n'importe quelle époque. Parce que vous enlevez le personnage qui, lui, bon, bah, à la limite, le situe peut-être davantage quand même dans le 19e. Mais si on enlève le personnage, bah, pourquoi pas aller le faire voyager jusqu'au 20e siècle, et jusqu'à Dali, et jusqu'à... Moi, je le trouve assez incroyable, notamment ce ciel... qui est quasiment, c'est un camailleux de gris, mais à la façon de, j'ai envie de dire, à la façon de Rothko, hein, on n'a quasiment rien, il y a juste un petit peu, vous voyez, des tout petits nuages là, qui, ces nuages qui filent très vite. Moi j'aime bien quand on regarde le ciel, parfois il y a des nuages qui passent très très vite, comme ça, qui sont pas des nuages floconneux, hein, c'est pas les cumulus et tout ça, ça passe très très vite, c'est juste comme si c'était de la poussière, je dis toujours de la poussière de nuages dans le ciel, c'est un petit peu ça. Et puis nous avons ce fabuleux arbre mort qui est là, hein, qui fait penser aussi quand nous avons travaillé sur la sécession viennoise. Vous savez, il y avait Schiele qui travaille comme ça sur des arbres, et bien là, qui fait des portraits d'arbres, et bien là, on pourrait presque l'isoler. J'ai envie de dire, dans ce tableau-là, on pourrait isoler chacun des éléments, et puis en refaire quelque chose que l'on situerait à des époques différentes de l'histoire de l'art, mais déjà très contemporaine, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'introduire cet artiste, et j'aurai l'occasion de vous montrer. Au niveau géométrique, je veux dire, c'est très très riche, il est très intéressant au niveau construction, hein. Et puis au niveau couleur aussi, et puis lumière, parce que c'est aussi une lumière très moderne. Et ce que j'aimerais en savoir plus sur lui, c'est savoir à partir de quand il est allé à Lyon. Parce que vous savez que la lumière lyonnaise, qui est aussi une lumière très très particulière, hein, ça c'est un peintre lyonnais qui m'a fait découvrir ça, c'est Truffemus qui m'a fait découvrir ça, mais c'est vrai que... Et ce travail qu'il fait sur la lumière est totalement différent des autres artistes que j'ai pu vous montrer. Donc on aura l'occasion de le revoir, cet artiste. Alors, ce que je regarde l'heure... Eh bien c'est l'heure... Alors on a juste un tout petit truc, on a le temps de le passer. Donc, ça marche pas. Donc, ben alors, je vais vous dire ce que j'aurais, je vais en parler. Hein. J'ai la chance, mais ça fait rien, c'est pas grave, hein, je vous en prie, parce que c'est déjà un travail fabuleux. Oui, moi j'ai eu la chance, grâce à Monsieur Collin, d'avoir accès aux audio guides, donc qui vous parlent, comme lorsque vous êtes. Alors, je m'étais dit que pour terminer, je voulais vous montrer. On n'a plus d'image là, c'est la dernière. Allez, l'image y est, donc je vais quand même vous la montrer. Je vais faire l'audio guide beaucoup moins bien, mais je vais le faire quand même. Donc, je voulais vous montrer, lors de la visite, on vous donne des audio-guides, comme à Montmartre, et on vous parle de la salle à manger des officiers. Donc, c'est ce que je vous montre ici dans l'audio-guide. Et donc, des officiers seraient venus un jour, on dit des militaires à Barbizon. Et on a donc le couvert est dressé. Vous voyez, donc on retrouve, c'était ce que vous voyez tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait davantage le meuble. On avait que le début de la table. Hein. Donc, vous voyez, là, vous retrouvez la salle à manger. Et puis, bon, bah là, on a un feu de cheminée. Donc, on imagine, c'est pour ça que j'ai voulu que Monsieur Collin intègre les différentes images. Parce que là, on imagine un feu de cheminée comme à l'époque de nos artistes. Hein. Et puis, donc, une des chambres à coucher... Donc il y a ce côté très que vous pouvez visiter aujourd'hui donc à l'auberge Gann que je vous invite vivement à découvrir. Voilà, alors donc cette séance d'introduction qui maintenant va nous conduire avec un choix qui bien sûr n'est jamais complètement neutre de ma part. Hein. J'ai essayé de mettre en valeur donc les artistes qui seront les plus qui ont le plus compté pour faire que l'école de Barbizon eh bien soit en fait un petit peu comme Gaïa, comme la mère créatrice, je ne sais pas comment il faut dire, pour les futurs peintres impressionnistes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses on a trop tendance à mettre de côté cette école de Barbizon. C'est un moment de l'histoire de l'art, hein, mais qui, je suis sûre, reviendra un jour à... Parce qu'on parle beaucoup des impressionnistes, on n'en a jamais tant parlé qu'on en reparle aujourd'hui. Et heureusement, parce qu'ils avaient eux aussi été mis... Mais j'ai même trouvé, il faudra que je vous relève la phrase, j'ai même trouvé dans le gros livre que j'ai sur les peintures du Louvre, une phrase qui est vraiment méprisante vis-à-vis de l'école de Barbizon. Sous-entendu que c'était vraiment de la sous-production. Alors qu'en fait, Jean-François Millet, c'est quand même un peintre important. Corot est quand même incroyablement important. Et puis ces artistes qui sont soit Diaz de la Peña peut-être moins importants, mais que justement, on a plaisir à découvrir dans les musées de province. Parce que souvent, quand on visite un musée, on va dans une ville, on visite dans un musée de province, et bien on les découvre, ces artistes-là. Et c'est bien de pouvoir les rattacher à une école. Et puis, moi, je dirais, ils ont quand même eu le courage, comme ceux qui sont partis du côté de la Bretagne, et bien eux, ils sont partis en forêt de Fontainebleau. Donc c'est bien, ils ont quitté la capitale, et puis il y avait quand même un but, donc c'était de rompre avec ce côté très académique. Et puis on voit donc tout ce que ça a engendré pour les artistes et tous les grands artistes impressionnistes. Donc ne méprisons pas cette école de Barbizon. Alors donc le gros catalogue de l'école de Barbizon qui a été donc réalisé par le Musée des Beaux-Arts de Lyon est vraiment l'ouvrage de référence le plus sérieux puisque toutes les dernières recherches sur l'école de Barbizon figurent dans ce catalogue. Voilà, je vous remercie infiniment. Et puis je vous dis à très bientôt, belle fin de journée. Merci. Et s'il y en a qui veulent...